toute la vie se développe en gros entre 0 et 30 degrés Celsius. Et donc, quand on commence à dire 2 degrés et peut-être même 4 degrés, eh bien, c'est vrai que ce genre de réchauffement, et surtout en si peu de temps, eh bien, va être, on peut dire, inédit sans doute dans l'histoire du vivant. Et c'est pour ça, effectivement, non pas tant par l'ampleur du réchauffement, mais surtout par sa rapidité, rapidité qui va ne pas permettre aux espèces d'évoluer pour s'adapter comme elles l'ont fait au cours de l'histoire du vivant, qui préoccupe beaucoup les biologistes et les écologistes.
D'accord, donc il y aurait en fait un double impact sur la biodiversité, un impact à la fois quantitatif avec des espèces qui risqueraient de disparaître, mais aussi qualitatif. Peut-être le réchauffement aurait un impact sur les organismes des êtres vivants.
Oui, alors effectivement, nous n'avons pas d'inquiétude pour la vie globalement. Vous savez qu'au fond des océans, il y a des sources avec des eaux à plusieurs centaines de degrés et on y trouve des êtres vivants. Donc il restera de la vie sur notre planète. La question c'est comment elle va évoluer et est-ce qu'elle va évoluer d'une manière qui continuera à nous être favorable ? Vous savez par exemple que les océans et les forêts, eh bien, captent à peu près la moitié aujourd'hui de nos émissions de gaz à effet de serre, ça divise par deux nos émissions, mais ça ne dure pas forcément. Par exemple, dans les forêts canadiennes, on sait qu'il y a des insectes qui ont progressé vers le nord et qui ont détruit des forêts de pins, et en quelques années, ces forêts de pins qui étaient des puits de carbone, c'est-à-dire qui fixaient du gaz carbonique, sont devenues des sources de carbone, c'est-à-dire qu'elles se dessèchent, et donc les aiguilles meurent, et la forêt, les sols forestiers se mettent à émettre au contraire du gaz carbonique, et en plus, comme les arbres ne transpirent plus, ça réchauffe le climat sur place, ce qui est une sorte d'effet, pas boule de neige, mais boule de feu, c'est-à-dire que le plus les arbres crèvent, le plus il va faire chaud. Donc effectivement, cette modification de la biodiversité, eh bien, peut avoir des conséquences très dommageables pour nous-mêmes, et c'est ça qui nous inquiète.
Et comment pallier justement ces conséquences ? Est-ce que vaut mieux pas prévenir que guérir ?
La première chose qu'il faut rappeler, c'est que depuis un certain temps, on voit que la biodiversité est déjà malmenée, qu'elle diminue dans pas mal d'endroits, et ça, c'est lié à toute une série de facteurs, les pollutions, la fragmentation des habitats, les introductions d'espèces exotiques, la surexploitation. Autrement dit, le réchauffement climatique va arriver sur une biodiversité qui déjà subit un certain nombre d'effets défavorables. Et donc la première chose à faire, c'est déjà continuons à lutter contre ces facteurs actuels, parce que le réchauffement climatique peut très bien les amplifier. Par exemple, s'il y a des polluants dans les rivières et que le débit des rivières diminue, ça veut dire que la concentration de ces polluants et donc leur toxicité va augmenter. Autrement dit, il va y avoir des interactions qui font que si le changement climatique se surajoute à ces facteurs actuels, eh bien, on a des scénarios assez catastrophes.
On entend aussi beaucoup parler de maillons de la chaîne alimentaire, et notamment certains membres de ces maillons qui sont en voie d'extinction. Donc finalement, est-ce que ça pourrait pas être finalement le battement d'aile du papillon dans le désert qui créerait in fine des conséquences désastreuses à grande échelle pour les hommes et pour les animaux également?
C'est l'image de ce qu'on appelle les basculements, c'est-à-dire que parfois on a l'impression que tout va bien, puis rapidement ça va basculer dans un autre état. Les hommes qu'on cite souvent, c'est qu'à force de surpêcher un certain nombre d'endroits des océans, eh bien, les poissons sont devenus de moins en moins abondants, et puis d'un seul coup, on a vu arriver une explosion de méduses, et les pêcheurs ne ramènent plus que de la gelée dans leurs filets. Et une fois que ces méduses sont installées, eh bien, on a beau arrêter la pêche, et il faudra sans doute des dizaines, peut-être des centaines ou des milliers d'années pour que l'écosystème rebascule comme un écosystème producteur de poissons. Et donc c'est ça qui inquiète aussi les écologues, c'est que peut-être que ces basculements vont se faire très rapidement. C'est l'exemple que je vous donnais il y a deux minutes d'une forêt qui était une ressource qui fixait du carbone et une forêt qui en quelques années devient une source de carbone.
Et quelles espèces animales sont actuellement les plus menacées par le réchauffement climatique et par l'activité humaine ?
On peut dire que ce sont d'abord les grandes espèces, souvent parce que ces grandes espèces, elles vivent longtemps et elles ne sont pas beaucoup de descendants, ce qui veut dire qu'elles ont des capacités d'adaptation par évolution beaucoup plus lentes. On dit souvent que, en l'espace d'une année, une bactérie va évoluer autant que l'espèce humaine depuis qu'elle existe. Les oiseaux, les mammifères, les grenouilles, etc., peut-être les plus gros insectes. La question, c'est que c'est souvent cette espèce dont nous avons le plus besoin, en particulier pour notre alimentation. Eh bien, effectivement, ça sera des ressources qui vont certainement disparaître. Et en plus, lorsqu'elles disparaissent, il peut y avoir aussi des phénomènes un petit peu de domino qui fait que l'écosystème, n'ayant plus ces grandes espèces, eh bien, peut basculer dans un état défavorable.
Est-ce qu'il n'y aurait pas, en plus de l'activité humaine, une évolution naturelle, finalement, qui ferait que certaines espèces s'imposeraient au détriment d'autres? Est-ce que ça n'a pas été toujours plus ou moins le cas durant notre histoire?
Ce que calculent les scientifiques, c'est en gros une espèce, ça dure à peu près 1 million d'années, et donc aujourd'hui on a l'impression qu'elle disparaisse 10, 100 fois, peut-être 1000 fois plus vite que ce renouvellement naturel. En plus, certaines espèces vont pouvoir se déplacer, c'est-à-dire vont pouvoir aller vers le nord. Par exemple, les oiseaux peuvent plus facilement migrer que des vers de terre. Mais même ça, c'est pas si évident. Quand des espèces vont être sur des moyennes montagnes, elles peuvent dans un premier temps monter plus en altitude. Mais une fois arrivées dans les zones de sommet, eh bien, on va pas leur demander de redescendre dans la plaine pour aller vers une montagne plus haute. Autrement dit, elles risquent d'être coincées comme ça dans des petits habitats où elles risquent de disparaître par réduction ou disparition de leur habitat. Et donc, on dit souvent, il faut mettre des autoroutes pour que les espèces migrent, mais c'est pas si évident et je pense qu'il faut surtout essayer de les garder là où elles sont, en favorisant effectivement leur implantation et en luttant contre les facteurs d'érosion.